depuis Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. Diffusion en français. La voix de l'Indonésie présente des actualités, des informations et des divertissements divers sur l'Indonésie. Et c'est ici que vous pourrez accéder à nos émissions tous les jours sur SW3325 et 4755 kHz ou via le site web www.voinews.id et l'application RRI numérique. La voix de l'Indonésie au monde.
Bonsoir chers auditeurs, ravi de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en française diffusée depuis Jakarta. Je m'appelle Tiwi et je vais vous accompagner pendant 60 minutes pour présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, la mise au point de la semaine et d'autres infos, à savoir l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Bon chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme des journaux. Aujourd'hui, on commence par le titre. Kemenpan RB encourage toutes les agences gouvernementales à fournir des services inclusifs. L'ambassadeur du Canada souligne l'importance de la coopération mondiale sur les questions féminines. Le rôle du gaz naturel comme énergie de transition continue de croître. Le ministre de la Culture veut que l'Indonésie devienne le centre de la culture mondiale. Le président sud-coréen Yoon Suk-yeol a été destitué par le Parlement. Bon, chers auditeurs, voici le journal en complet. Le ministère de l'autonomisation des appareils d'État et de la réforme bureaucratique, ou abrégé en Kemenpan RB, encourage toutes les agences gouvernementales à fournir des services inclusifs tant pour le grand public que pour les groupes vulnérables tels que les personnes âgées, les femmes, les enfants et les personnes handicapées. Cité dimanche par Antara Jakarta, le ministre du PAN-RB, Rini Widiantini, a invité toutes les parties à commencer à ouvrir l'accès et à améliorer les infrastructures afin que les gens puissent bénéficier des meilleurs services du gouvernement. Rini a également invité toutes les agences qui offrent des services directs à la communauté à faire campagne pour des services plus égaux pour tous les groupes communautaires. Les ambassadeurs du Canada en Indonésie et au Timor-Leste, Jess Dutton, a souligné l'importance de la coopération mondiale pour traiter la question liée à l'égalité des sexes et au programme des femmes, de la paix et de la sécurité. Cela a été exprimé lors du symposium sur le leadership sensible au genre organisé par la Direction de la coopération militaire et de sécurité en collaboration avec le Centre indonésien de maintien de la paix à Jakarta samedi. Dans son discours, il a également déclaré que parvenir à la pleine égalité des sexes n'est pas une chose facile, mais qu'il est très important de maximiser le potentiel d'un pays. La promotion de l'égalité des sexes et des principes inscrits dans l'agenda femmes, paix et sécurité est une question mondiale très importante qui nécessite la coopération de toutes les parties. Parvenir à l'égalité complète entre les sexes n'est pas facile. Toutefois, pour que nos pays puissent atteindre leur plein potentiel, cela doit être réalisé. Pour créer la société la plus prospère, la plus succès et la plus égalitaire, éradiquer la pauvreté et accroître la sécurité sociale, les femmes doivent avoir les mêmes opportunités que les hommes, sans barrière ni discrimination. L'ambassadeur du temps a en outre ajouté que ce symposium était également un élan pour renforcer les relations stratégiques entre l'Indonésie et le Canada dans le secteur de la défense. Grâce à des activités comme celle-ci, il espère que l'Indonésie et le Canada pourront renforcer leur engagement à se soutenir mutuellement pour créer une région plus sûre et plus stable. Saleh Abdurrahman, membre du comité de l'Agence de réglementation du pétrole et du gaz en aval, a déclaré que l'utilisation du gaz naturel comme énergie de transition continue de croître. Cité par Antara à Jakarta samedi, il a déclaré que l'Indonésie possède des réserves de gaz naturel assez importantes qui nécessitaient un soutien en matière d'infrastructures pour les développer. Selon lui, le développement des infrastructures de gaz naturel est nécessaire pour distribuer ce produit à davantage de consommateurs, notamment l'industrie, les ménages, l'électricité et les transports. D'autre part, selon lui, le développement des infrastructures de gaz naturel et des activités de commerce du gaz naturel nécessite la sécurité de l'approvisionnement avant de pouvoir attirer et convaincre davantage d'investisseurs pour son développement, y compris les consommateurs de gaz naturel. Saleh a également souligné l'importance d'étendre plus massivement le développement du réseau de gaz naturel domestique comme l'une des meilleures options pour réduire l'utilisation du GPL subventionné. Le ministre indonésien de la Culture, Fadli Zon, lors du séminaire et de la réunion de travail national de la Société des historiens indonésiens, samedi a exprimé qu'il souhaitait que l'Indonésie devienne le centre de la culture mondiale. Cela, a déclaré Fadli, est dû au fait que l'Indonésie possède une culture diversifiée qui s'étend à Aceh à la Papouasie, qu'il appelle la méga-diversité. Cité par Antara Jakarta, Fadli Zon a déclaré que l'Indonésie compte environ 1300 groupes ethniques. Leur existence, selon lui, produit de nombreuses expressions culturelles diverses et existe depuis des temps immémoriaux. L'Assemblée nationale sud-coréenne a voté samedi la destitution du président Yoon Suk-yeol pour sa décision de déclarer la loi martiale le 3 décembre, décision qui a ensuite échoué. Cité par Antara, la motion visant à destituer le président Yoon a été approuvée par 204 des 300 membres de l'Assemblée nationale qui ont voté lors de la session parlementaire. Lors du vote, 85 membres ont voté contre la destitution avec 8 votes nuls et 3 abstentions. Ainsi, le mandat présidentiel de Yoon Suk-yeol sera suspendu à compter du moment où la motion de destitution sera reçue par son bureau. Le premier ministre Han Duk-soo deviendra président par intérim. Une fois la motion de destitution adoptée par le Parlement et la présidence de Yoon suspendue, la prochaine étape aura lieu devant la Cour constitutionnelle. Le tribunal décidera si Yoon doit être démis de son poste présidentiel ou s'il peut revenir à ce poste. Si le tribunal décide que Yoon doit être démis de ses fonctions présidentielles, Yoon sera le deuxième président sud-coréen à être destitué avec succès après Park Geun-hye en 2017. Voilà les journaux d'aujourd'hui. Bonsoir à tous les auditeurs de Voice of Indonesia. Voici la mise au point de la semaine dont le titre est « Le président inaugure le tunnel Silaturahim, symbole de l'harmonie religieuse en Indonésie ». Le président Prabowo Subianto a inauguré jeudi le tunnel Silaturahim qui relie la mosquée Istiqlal à l'église cathédrale de Jakarta. Ce tunnel est devenu un symbole d'harmonie entre les communautés religieuses d'Indonésie. Dans son discours, Prabowo a rappelé que les différences ne doivent pas devenir une source de division. Selon lui, les différences sont une richesse qui donne la force, comme l'ont démontré les fondateurs et les personnalités de la nation en matière de tolérance, d'empathie, d'harmonie et d'unité. Le président Prabowo a déclaré que l'harmonie entre les communautés religieuses était l'une des exigences absolues d'une nation et d'un État. Il a estimé que les peuples indonésiens vivaient côte à côte en paix depuis des centaines d'années et que cela devait continuer à être maintenu et renforcé. Le tunnel de Silaturahim, construit au coût de 38,9 milliards de rupiah, mesure 28,3 mètres de long, 3 mètres de haut et 4,1 mètres de large. Ce tunnel est appelé le tunnel Silaturahim car il est conçu pour faciliter la connexion des visiteurs des deux lieux de culte, la mosquée Istiklal et l'église cathédrale, afin qu'ils puissent se connecter facilement. Le nom de tunnel Silaturahim reflète son objectif principal de renforcer les relations entre les communautés religieuses grâce à un accès plus direct et pratique. Le tunnel vise également à créer une interaction plus étroite entre les deux lieux de culte historique, montrant que malgré les différences de croyances, ils peuvent être connectés dans un esprit d'unité. La construction du tunnel Silaturahim s'est effectivement achevée le 20 septembre 2021. Cependant, l'accès au grand public n'a pas encore été ouvert, car il reste encore des travaux supplémentaires à terminer, notamment en ce qui concerne la décoration artistique des murs. En plus de fonctionner comme une connexion, ce tunnel est également équipé d'un diorama illustrant les relations de tolérance entre les communautés religieuses, représenté à travers le travail de l'artiste Sunario, dont le thème est « Wat Hati » ou en français « Le pont du cœur ». Le diorama montre le parcours historique d'harmonie entre musulmans et chrétiens en Indonésie, représenté dans les reliefs qui décorent les parois du tunnel. L'inauguration du tunnel Silaturahim a marqué l'ouverture du tunnel au grand public. Ce tunnel est accessible depuis le terrain de l'Istiklal jusqu'au terrain de la cathédrale ou vice-versa pour faciliter les activités des visiteurs et des congrégations des deux édifices religieux. Voici l'histoire d'aujourd'hui, le 15 décembre 2024. On commence par le 15 décembre 1945. L'armée populaire de sécurité indonésienne repoussait les troupes alliées d'Ambarawa, Java Central. Après la proclamation de l'indépendance le 17 août 1945, la lutte du peuple indonésien ne s'est pas arrêtée. Dans certains endroits, des combats ont eu lieu pour expulser l'armée ennemie. L'un d'elles était la bataille d'Ambarawa à Java Central, qui s'est déroulée du 20 novembre au 15 décembre 1945. Citant comme dicbut Poangopoangide, la bataille a eu lieu entre les troupes de l'armée de sécurité populaire soutenues par le peuple indonésien et les troupes alliées britanniques. Les troupes alliées sont entrées en Indonésie pour s'occuper des prisonniers de guerre néerlandais détenus dans les prisons d'Ambarawa et de Magelang. Cependant, l'arrivée des troupes alliées est infiltrée par les Néerlandais. La bataille d'Ambarawa s'est terminée le 15 décembre 1945 lorsque les troupes alliées ont été repoussées avec succès d'Ambarawa par les troupes de l'armée de sécurité populaire. Le 15 décembre est alors célébré par l'armée indonésienne comme la journée de l'infanterie. Basée sur le décret présidentiel de 1999, la journée de l'infanterie a été renommée la journée de combat de Kartika. Le 15 décembre 2005, la Journée internationale du thé a été célébrée pour la première fois. La Journée internationale du thé est célébrée chaque année le 15 décembre. Cette célébration a eu lieu depuis 2005 dans les pays producteurs de thé comme le Bangladesh, le Sri Lanka, le Népal, le Vietnam, l'Indonésie, le Kenya, le Malawi, la Malaisie, l'Ouganda, l'Inde et la Tanzanie. La Journée internationale du thé vise à attirer l'attention des gouvernements et de la communauté mondiale sur l'impact du commerce du thé sur les travailleurs et les agriculteurs du thé et à le lier aux demandes de soutien des prix et de commerce équitable. La célébration comprend également la conférence mondiale sur le thé co-organisée par le mouvement syndical. Décembre 2017, le tremblement de terre de Java 2017. Le tremblement de terre de Java en 2017 était d'une magnitude de 6,5 qui a frappé l'Indonésie le 15 décembre 2017 à 23h47 heure l'Indonésie occidentale à l'île de Java. L'épicentre du tremblement de terre était à 63 km de Tasikmalaya, Java de l'Ouest, et situé sur terre avec l'épicentre autour de Cipatuja. Le choc sismique de la Terre est ressenti pendant environ 5 à 30 secondes chez la plupart des habitants de l'île de Java à partir de Pangandaran, Bandung, Kebumen, Yogyakarta, Pekalongan, Jabodetabek, dans un certain nombre de régions de Java de l'Est. Le Conseil national pour la gestion des catastrophes a déclaré que 4 personnes ont été tuées, 36 personnes ont été blessées et 4969 personnes ont été blessées. Les dégâts étaient de 730 lourdement endommagés, 1323 modérément endommagés et 2916 légèrement endommagés en certain nombre de zones touchées. Voilà l'histoire d'aujourd'hui.
Tunjukkanlah my heart.
Voilà la chanson de pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sous la fréquence de 3325 kHz et 4755 kHz. Et voici mon Indonésie.
Voice of Indonesia.
Mon Indonésie d'aujourd'hui est intitulée « Le président de Gama fait l'éloge de la régénération des athlètes de MMA en Indonésie ». Le président de l'Association mondiale des arts martiaux mixtes, ou en anglais Global Association of Mixed Martial Arts, ou abrégé en GAMMA, Alexander Engelhardt, a salué la régénération des athlètes d'arts martiaux mixtes, ou MMA, en Indonésie. Comme cité sur le site web du ministère de la Jeunesse et des Sports, jeudi à Jakarta, Alexander Engelhardt a déclaré qu'il ne s'agissait pas seulement d'organiser le championnat du monde GAMMA MMA 2024 en Indonésie, mais de l'enthousiasme de commencer dès le plus jeune âge, car ils sont l'avenir. Alexander Engelhardt est en Indonésie pour le championnat du monde GAMMA MMA 2024 qui se tiendra à la Dewa United Arena, Banten. Il a également discuté avec le ministre de la Jeunesse et des Sports, Dito Aryo Tejo, lors de la cérémonie d'ouverture du championnat mardi soir. Dans son discours lors de la cérémonie d'ouverture, il a exprimé son admiration pour la tenue du championnat et apprécié le développement des sports d'arts martiaux mixtes en Indonésie. Alexander Engelhardt a souligné que la régénération des jeunes athlètes est très importante pour garantir que l'avenir du MMA en Indonésie continue d'exister et de se développer. Il a déclaré que l'organisation des deux classes à l'âge 18 ans et senior de MMA au championnat du monde GAMMA MMA 2024 était une combinaison importante, en particulier pour les athlètes juniors, afin de suivre le développement de leurs seniors et de devenir des athlètes MMA exceptionnels à l'avenir. Pendant ce temps, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Dito Aryo Tejo, a déclaré que la tenue des championnats du monde GAMMA MMA 2024 montre l'engagement de l'Indonésie à se préparer aux événements sportifs de niveau mondial en faisant progresser les sports de combat mixte ou art martiaux mixte, ou Mixed Martial Art, abrégé en MMA. Le championnat du monde, a déclaré le ministre Dito, a réuni plus de 600 athlètes de plus de 60 pays, prouvant ainsi que l'Indonésie pourrait très bien accueillir le championnat du monde. En dehors de cela, Alexander a également loué la structure organisationnelle du sport MMA en Indonésie, qu'il a qualifiée d'extraordinaire car elle ressemble au niveau mondial. Il a ajouté que le MMA et le pencak silat, en tant que sport indonésien indigène, peuvent se développer ensemble. Il estime que l'Indonésie a un grand potentiel pour développer le MMA et produire de grands athlètes. C'est tout mon Indonésie.
Voice of Indonesia.
Meskipun ku tak mau kau dekati diriku, namun saat aku buka pintu di hatiku, tiada lagi dirimu, kau menjauh dariku. Mengapa kini kau harus pergi di saat ku telah jatuh hati? Sayang.
salahkan waktu atas segalanya. Mengapa,
mengapa
dia tak berpihak pada cinta kita? Oh, hingga kemarauku bersemi, izinkan aku menanti kau buka pintu hatimu kembali. Oh, sayangku tak bisa dibuatmu kecewa. Kau buatku mati rasa meski ku bernyawa. Cinta
luka, luka,
luka, luka.
Pergi saja.
Maaf sayangku tak bisa.
Oh,
no.
Maaf sayangku tak bisa.
La Voix de l'Indonésie, la diffusion à l'étranger de Radio République Indonésia, présente des émissions dans nos services linguistiques anglais, français, allemand, néerlandais, espagnol, arabe, mandarin, japonais et indonésien. Cette émission radiophonique est diffusée via SW 3325 kHz et 4755 kHz et en streaming sur www.voinews.id et RRI numérique. Nous vous présentons divers programmes Charme de l'Indonésie, l'Indonésie en couleur, parlons indonésien, divertissement de musique pop indonésienne, régionale et la chanson au rythme croncong, ainsi que des actualités et des informations sur l'Indonésie et l'étranger. La voix de l'Indonésie au monde.
Chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson de pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, en plus de la fréquence de 3325 kHz et 4755 kHz. Vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.id. Maintenant, nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien. Chers auditeurs, la plage de Tanjung Panghujan est une plage située au village de Teluk Bogam, sous-district de Kumai, Kota Waringin de l'Ouest, Kalimantan Central. La plage de Tanjung Panghujan est aussi souvent appelée la plage de la baie de Bogam. Le nom de cette plage vient du fait qu'il y a de nombreuses plantes Bogam dans la région de la baie, dont la zone est utilisée comme nom de village et aussi comme nom de la plage. Cette plage se trouve à environ 16 km de la capitale du sous-district Kumai et à 70 km du centre-ville de Pangkalan Bun. La majeure partie de la plage de Tanjung Panghujan est constituée de plaines d'une hauteur de 0 à 3,5 mètres au-dessus du niveau de la mer, généralement sablonneuses et avec une topographie plate et tentaculaire. Cette plage a une superficie de 44 hectares, ce qui en fait une option pour le camping. Vous pouvez apporter du matériel tel que des tentes, des ustensiles de cuisine, de l'eau minérale, de la nourriture pratique, ainsi que des vêtements de rechange. Le vent de la plage est très froid l'après-midi et le soir, alors n'oubliez pas d'apporter des vêtements épais comme une veste. Lorsque vous avez fini de monter la tente, vous pouvez récupérer des brindilles de pain cassé pour un feu de camp. Camper sur la plage de Tanjung Panghujan est très excitant. Vous aurez l'impression de dormir dans une tente accompagnée du bruit de vent fort de la plage et également des bruits des animaux. Le camping d'ici c'est gratuit, mais vous devez vous rappeler que vous ne devez pas le jeter avec des détruits et surtout, vous devez suivre les règles qui ont été établies. La vue sur la plage est très belle, très adaptée pour profiter du lever et du coucher du soleil. Au bord de cette plage, il y a des arbres et des prairies vertes. En plus de cela, il y a aussi un belvédère dont le toit a la forme d'une maison typique de Kalimantan sur pilotis qui peut être utilisé pour se reposer et qui vous fait sentir ici comme chez vous. Profitez de la vue panoramique sur la magnifique étendue bleue de la mer ainsi que de la douce brise des rangées de pins pas trop denses, serait dommage de ne pas le faire. Ici, vous pouvez également nager sur le rivage et sentir l'eau de mer fraîche et toujours aussi propre. Pour rejoindre la plage de Tanjung Panghujan, vous pouvez emprunter la route terrestre pendant environ 60 minutes depuis le centre-ville de Pangkalan Bun. Sur le chemin, vous regarderez les superbes panoramas naturels le long de la route menant à la plage, et connue pour ses vues panoramiques sur le lever et le coucher du soleil.
Jatuh hati padamu sepenuh hati, hidup pun akan ku beri, apapun kan ku lakui, tapi tak pernah ku bermimpi kau tinggalkan aku pergi tanpa tahu rasa ini. Rasaku membenci, tiba-tiba kamu datang saat kau telah dengan dia semakin hancur hatiku. Jangan datang lagi cinta, bagaimana aku bisa lupa? Padahal kau tahu keadaannya, kau bukanlah untukku. Jangan lagi rindu cinta, ku tak mau ada yang terluka. Bahagiakan dia, aku tak apa, biar aku yang pura-pura. Oh,
aku tak apa, biar aku yang pura-pura lupa.
Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. Bonjour à notre ami d'Algérie, Abdelkader Khalil. Merci beaucoup pour vos chaleureuses félicitations. Je vous apprécie vraiment. Et nous espérons également pour que vous soyez toujours en bonne santé, heureux et prospères. Merci à vous qui nous ont toujours écoutés et restez toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. La suite, écoutons la rubrique suivante, l'Indonésie en couleur. Voici l'Indonésie en couleur dont le titre est « L'équipe étudiante de l'Université du Président a remporté le concours mondial de Start-up 2024 ». L'équipe étudiante de l'Université du Président, à travers le jeu MMORPG, a remporté la première place au Global Startup Competition au Vietnam. Les jeux MMORPG sont des jeux de rôle. Représentant BusyWizy Studio, des étudiants spécialisés en technologie de l'information ont présenté leur concept de startup centré sur le développement des jeux et d'animation. Ce jeu a créé une expérience immersive grâce à la narration et un dessin de pointe. L'un des principaux défis auxquels l'équipe est confrontée est la gestion efficace du temps. Équilibrant de multiples engagements, ils travaillent sans relâche pour préparer des présentations percutantes, notamment en concevant des scripts convaincants, en formant des équipes de pitch et en éditant des vidéos de haute qualité pour compléter les idées. Malgré divers obstacles, leur équipe reste résiliente, motivé par la conviction que l'innovation peut avoir un impact durable sur l'industrie du jeu et de l'animation. Gagner la première place a été un grand moment pour cette équipe. Cette réalisation renforce l'engagement de l'équipe en faveur d'innovations pionnières qui redéfinissent le divertissement interactif. L'équipe des jeux MMORPG est déterminée à continuer de créer des studios qui offrent des expériences significatives et ont un impact positif sur le public du monde entier.
sucikan memori yang singgah dalam mimpi, memutar kembali lini hatiku. Ku hanya ingin tenang.
Chers auditeurs, voilà la chanson de pop indonésienne.
Et nous continuons notre programme avec les informations musicales. Bonne écoute.
Voice of Indonesia.
Bonsoir les auditeurs de Voice of Indonesia. Cette fois, je parle d'une chanson intitulée Apa Artinya Aku. Le maestro des chansons d'amour, Yovi Widianto, a collaboré avec trois jeunes divas indonésiennes, Liodra, Tiara Andini et Ziva Magnolia, ou abrégé en groupe en LTZ, pour sortir une chanson intitulée « Apa Artinya Aku » qui est sortie le 13 décembre 2024. Cette chanson a été créée par Archie Widianto, qui n'est autre que le fils de Yovi Widianto. Apa Artinya Aku raconte de l'amertume d'un amour non partagé, décrivant les sentiments de quelqu'un qui aime profondément, mais qui n'est considéré que comme un second choix. Dans cette chanson, Yovi Widianto présente à nouveau un bel arrangement musical avec une douce sensation de balade pop. La combinaison des notes de piano, de la section de cordes et des caractéristiques vocales distinctives des trois chanteuses Liodra, Tiara Andini et Ziva Magnolia crée une harmonie époustouflante. Bon, chers auditeurs, voici Yovi Widianto et LTZ, Liodra, Tiara Andini et Ziva Magnolia, dont le titre est « Apa Artinya Aku ». Bonne écoute!
Artinya diriku yang begitu berharap kau setia padaku. Saat kulihat kau dengannya, kau berpaling dariku. Apa artinya aku? Aku masih milikmu.
Voice of Indonesia.
Of Indonesia.
Quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain dans la même heure et la même fréquence. Au revoir.